Moby Dick, d'après Herman Melville. Lecture clé en français facile. Copyright Clé Internationale 2018. 1. Quick Egg. En novembre, quand le brouillard s'épaissit, il assombrit mes journées. Je m'enfonce alors dans une tristesse profonde. Et pour éviter de suivre les cortèges des enterrements, je sais que moi, Ismaël, orphelin de père, je dois sans tarder quitter Manhattan, m'éloigner de la terre et partir en mer. Rechercher la puissance vitale de l'océan, je l'ai fait plusieurs fois dans la marine marchande. Chaque fois, je m'engageais comme simple matelot, sans aucun besoin de reconnaissance. Et si vous me demandez pourquoi cette fois-ci j'ai choisi de naviguer sur un baleinier, je ne saurais pas vous répondre avec exactitude. Les forces obscures de la vie m'ont sans doute encouragé à chasser les baleines. J'avais sûrement besoin de sensations fortes. J'étais décidé à aller le plus loin possible, jusqu'à l'extrémité de ma terre, sur l'île de Nantucket, pour choisir le bateau de mon aventure. Pour s'y rendre, il fallait prendre un bateau à New Bedford, qui est devenu le lieu principal de départ de la chasse aux cétacés. Cette petite ville côtière, qui n'était qu'un arrêt pour moi, a toutefois été une pause décisive. Je vais vous raconter pourquoi. Le froid glaçait le quartier désert, près des docks, le soir lugubre où je suis arrivé à New Bedford. Il fallait plisser les yeux et lutter pour avancer. Non seulement chaque pas était un combat contre le vent, mais en plus, toutes les auberges étaient complètes. Et je n'avais que quelques pièces en poche. Au bout d'une rue sombre, j'ai aperçu une faible lumière. Je me suis approché. Au-dessus de l'entrée, un panneau se balançait. Il était écrit « Auberge du souffleur Peter Coffin ». Coffin, il paraît que c'est un nom répandu à New Bedford. Je me suis demandé si c'était de mauvais augure. Cependant, j'ai pensé que le logement serait bon marché et que l'on y servirait un bon café. L'endroit était tranquille, mais pauvre. C'était une petite maison qui avait l'air d'être construite avec le bois à moitié brûlé d'une vieille épave. L'entrée était sombre. Elle donnait sur une salle avec une cheminée qui n'était pas allumée. À une table, un groupe de jeunes marins discutait en buvant de la bière. Accoudé à un bar en forme de baleine, un homme m'a annoncé « Je suis Peter Coffin, le patron. Vous cherchez quelque chose ?»« Je voudrais une chambre pour 2 ou 3 nuits, » j'ai répondu. « Je suppose que vous partez à la chasse à la baleine ?» Je lui ai dit qu'en effet, c'était mon projet. « C'est complet, » a-t-il continué, « mais je peux peut-être faire quelque chose pour vous. » Il faut vous préparer à la vie de marin sur les baleiniers. Alors je peux vous proposer un grand lit à partager avec un harponneur. Avais-je le choix? Où est-il, votre harponneur? Il est sorti, mais il ne va pas tarder. Vous voulez dîner? M'a-t-il demandé. Avec les autres marins, nous nous sommes assis dans la salle d'à côté. On se serait cru en Islande, car là non plus, il n'y avait pas de feu dans la cheminée. Et il faisait un froid glaçant. Peter Coffin n'avait soi-disant pas assez d'argent pour nous chauffer. On nous a servi des boulettes de viande avec des pommes de terre. En bout de table, j'ai remarqué qu'un des marins dévorait les boulettes de viande à s'en rendre malade. « C'est lui, le harponneur ?» j'ai chuchoté à l'oreille de Peter Coffin. « Non. Le harponneur, c'est un immense gars au teint sombre. Et il ne mange pas des boulettes de viande. » Ce genre de sauvage, c'est de la viande crue qu'il mange, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne voyais pas ce qu'il sous-entendait, mais ce qui était certain, c'est qu'il me mettait mal à l'aise. En montant l'escalier pour me conduire à ma chambre, Peter Coffin a encore essayé de me faire peur. Il m'a dit que ce grand sauvage était sans doute cannibale, mais de confiance, et que je pouvais dormir tranquille. De toute évidence, il se moquait de moi. Je ne comprenais pas comment un cannibale pouvait inspirer confiance. J'avoue que j'ai d'abord voulu attendre le harponneur et ne pas me coucher le premier. Mais il était tard, j'étais fatigué. J'ai donc inspecté la chambre, je me suis installé, puis couché sous les couvertures dans le grand lit. Quelques instants plus tard, alors que je commençais à m'endormir, un pas lourd a résonné dans le couloir. J'ai aperçu une lueur sous la porte. Le cannibale est entré. Il était très grand. Il a retiré son chapeau en peau de castor tout neuf, et j'ai commencé à trembler. Il n'avait pas de cheveux, sauf une petite touffe sur le front. À la lumière de la chandelle, j'ai découvert son atroce visage qui semblait avoir été peint. Des traits gris formaient une sorte de damier sur sa peau. Peter Coffin m'avait fait peur avec ses histoires de cannibales, et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il avait raison. Quand le cannibale s'est déshabillé, j'ai pu voir son corps de sauvage. Sa poitrine, ses bras et ses jambes étaient recouverts de la même peinture grise. Il avait partout le même échiquier. J'avais entendu parler de marins qui, faits prisonniers par des sauvages des mers du Sud, étaient revenus avec de telles marques sur la peau. C'était, à mon goût, tout simplement terrifiant. Cela ne faisait plus aucun doute. J'avais en face de moi un abominable sauvage. Allait-il me tuer? Allait-il me manger? J'aurais voulu courir me cacher, j'ai même pensé à sauter par la fenêtre. Mais au lieu de ça, j'ai continué à observer le sauvage en silence. Ce cannibale a sorti de ses poches une pipe et un petit objet en bois très sombre. C'était une figurine toute noire. J'ai supposé que cela devait être de l'ébène. Le grand sauvage a posé cette figurine dans la cheminée et s'est mis à brûler un biscuit qu'il lui a donné tout en marmonnant des mots incompréhensibles. Certainement un rite païen, j'ai alors pensé. Je regardais chacun de ses gestes avec toujours de la peur, mais surtout beaucoup d'étonnement et de curiosité. Cependant, quelques minutes plus tard, quand il a allumé sa pipe et qu'il s'est glissé sous les draps, je n'ai pas pu retenir mes cris. « Peter Coffin, au secours !» Si le diable était entré dans ma chambre en pleine nuit, je n'aurais pas eu aussi peur.
« Aidez-moi, à l'aide !»
Tandis que je continuais à hurler, le sauvage a attrapé son harpon et il a crié à son tour. « Qui es-toi ? Dis ou je tue toi !» Peter Coffin est arrivé, visiblement satisfait du mauvais tour qu'il nous avait joué. Il a fait signe au sauvage de baisser son arme. « Oh là là, Quick Egg, pose ce harpon !» lui a-t-il lancé en ricanant. « Calme-toi, ce n'est qu'un marin qui n'avait pas de lit pour la nuit. » Il avait l'air curieux, alors j'ai pensé qu'il serait content de faire ta connaissance. « Ce lit est assez grand pour deux. Avec le froid qu'il fait, vous allez vous tenir chaud. » Et puis il est reparti et a ajouté depuis le couloir « Son nom, c'est Ismaël. » Avec la délicatesse remarquable de l'aubergiste, nous avions donc été présentés. Il nous fallait maintenant nous entendre. Cela n'a pas été évident. Le sauvage a reposé son harpon contre le mur. Pendant que moi, je me mettais le plus possible au bord du lit. Il s'est recouché en grognant.
« Tu restais tranquille, hein ?»
J'ai fini par dormir malgré la peur. Mais je me suis réveillé le lendemain matin avec le bras du sauvage autour du cou. Cela a pourtant été le début d'une solide amitié avec Quick Egg, le meilleur harponneur de la région. Un homme sympathique que j'avais pris pour un sauvage à cause d'une couleur de peau et d'une culture qui était différente des miennes. Dès le lendemain, nous avons fait connaissance. Quick Egg m'a longuement parlé des traditions de son pays et de ses croyances. J'ai vite compris que c'était un homme honnête, courageux et en qui je pouvais avoir confiance. Il était certes étrange pour nous parce qu'il était différent, mais il avait un courage extraordinaire, beaucoup de volonté et de générosité, et en plus, il venait d'une famille royale. Il m'a expliqué qu'à force d'observer les bateaux qui passaient dans la baie de son île, il s'était dit qu'il devait partir avec l'un d'eux en terre chrétienne pour comprendre le plus de choses possibles que nous savions. Il voulait apprendre pour pouvoir mieux gouverner son peuple quand il serait roi à son tour, comme son père, son grand-père et leurs ancêtres. Un jour où un navire s'est arrêté dans la baie, Quick-Egg est allé rencontrer le capitaine. Or, celui-ci n'a jamais voulu le prendre dans son équipage. Face à ce refus, Quick-Egg n'a pas renoncé, bien au contraire. Il est monté dans sa pirogue et il a pagayé jusqu'à un endroit où le bateau allait forcément passer en repartant. Quand il est passé, Quick-Egg a sauté. Il s'est accroché aux cordes, il a grimpé à bord. Là, le capitaine ne pouvait plus le chasser. Quick-Egg avait beau être roi dans son pays, il n'a jamais été reçu à la table du capitaine, ni même dans sa cabine. Non, Quick-Egg était bon au début pour laver le pont et faire toutes sortes de tâches qu'on donne aux matelots comme moi. C'est un peu plus tard que le capitaine d'un baleinier lui a mis un harpon dans les mains. Lui qui était habitué à chasser sur son île est devenu un des meilleurs harponneurs de Nantucket. J'avais des difficultés au début à comprendre son langage. Il faut dire qu'il a appris notre langue sans enseignement, en acceptant tous les durs travaux que les capitaines voulaient bien lui confier. Moi, je me suis habitué si bien que nous avons pu avoir de longues conversations sur nos vies et nos goûts. Nous avons décidé de rejoindre ensemble l'île de Nantucket pour chercher le bateau idéal. Peter Coffin, le patron de l'auberge du Souffleur, nous avait recommandé l'auberge du Tadpo qui appartenait à son cousin José Hussey. Il nous avait dit que l'on y mangeait la meilleure soupe de poisson de la région. C'était vrai, et tellement vrai, qu'on nous la servait aussi bien au petit-déjeuner qu'au déjeuner et au dîner. Même le lait avait un goût de poisson. En me promenant sur la plage, j'ai vu la vache de l'aubergiste qui mangeait des restes de poisson. Nous avions sans doute là un avant-goût de ce qui nous attendait sur le bateau pendant plusieurs années. C'est la femme de l'aubergiste qui s'occupait des lieux avec fermeté et efficacité. Elle était en train d'expulser un type quand nous sommes arrivés. Comme une bonne patronne, elle a laissé ce travail pour nous accueillir. Elle nous a donné une chambre, mais n'a pas laissé Quick-Egg monter avec son harpon. Je suis alors intervenu. « Madame, un vrai harponneur ne se sépare jamais de son fer. »«
Eh bien, ici, il va s'en séparer et c'est tout. Il ne montera pas dans la chambre avec. C'est moi qui vous le dis. » Depuis que ce petit jeune, qui revenait de 4 ans de chasse à la baleine avec un peu d'argent, a été retrouvé avec son harpon dans le cœur, plus personne ne monte avec une arme à l'auberge du Tadpo. L'arme va dormir avec moi. »
Quick-Egg a bien été obligé d'accepter. Nous montions quand elle a demandé d'une grosse voix.
« Et pour le petit déjeuner, vous voulez une soupe de coquillage ou une soupe de morue ?»«
Les deux, et vous ajouterez des harengs fumés pour changer, » j'ai répondu.
Dès notre rencontre à New Bedford, nous nous étions mis d'accord avec Quick-Egg pour trouver ensemble le bateau idéal sur l'île de Nantucket. Mais voilà, Quick-Egg avait l'habitude de s'en remettre aux décisions de Yo-Yo. C'était le nom de sa figurine, son idole païenne. Il avait entièrement confiance en lui. Et l'idole a décrété que je devais trouver le bateau idéal tout seul et que Quick-Egg devrait arriver après. J'ai tout essayé pour le convaincre de venir avec moi, car cette responsabilité me paraissait énorme, mais aucun de mes arguments n'a fonctionné. Je suis donc parti seul sur le quai, à la recherche du bateau qui devait nous conduire vers notre aventure.